Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Oui, Seigneur.
Au verset 19, Évangile de Jean, chapitre 20, verset 19e, il est écrit ceci. C'est-à-dire le soir de la résurrection, le jour le plus extraordinaire que la terre ait connu, la résurrection du Fils de Dieu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Une deuxième lecture, s'il vous plaît, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 1er. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12e. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et une troisième lecture, s'il vous plaît, dans le deuxième livre des Chroniques, premier chapitre du deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, chapitre premier. Salomon, fils de David, s'a permis dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers, de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jéarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel des reins, qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon, retenez bien cette phrase, Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel des reins, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? Et dans le livre des rois, dans la même histoire, Salomon dit, ajoutera ceci, qui lui demande de l'intelligence et de la sagesse pour discerner le bien et le mal. Et lorsque nous avançons dans la volonté de Dieu, qui, comme nous l'avons lu dans l'épître de Paul aux Romains, est quelque chose de parfait, la volonté de Dieu, nous allons le voir un petit peu ce matin, elle n'est pas que bonne. Pour des multitudes de chrétiens, leur démarche spirituelle s'arrête à cet aspect de leur découverte de l'Évangile. Ils sont passés par ce que l'on appelle la repentance et la conversion. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils entretiennent leur salut. Et on peut dire de ces gens-là qu'ils font la volonté de Dieu qui est bonne. Que des multitudes de Toulousains puissent connaître la volonté de Dieu qui est bonne. Mais voilà, le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Nous pouvons être dans la volonté de Dieu et par le fait même de ne pas comprendre certaines vérités, de ne pas chercher suffisamment Dieu, de ne pas aller plus loin dans sa démarche, dans le plan que Dieu a préparé pour nous, eh bien nous pouvons passer à côté de la volonté de Dieu qui est parfaite et agréable. Et ce matin, je pense de tout mon cœur que cette prédication s'adresse à ceux qui veulent vraiment discerner la volonté de Dieu. Parce que comprendre la volonté d'une manière générale, c'est une chose, la discerner, c'est vraiment autre chose. Et si l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous demande d'avoir un certain état de cœur et de faire certaines choses pour discerner la volonté de Dieu n'est pas réglée avec une prière expéditive. Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est vrai que Dieu regarde au cœur et que nous n'avons jamais, mais jamais le droit de juger une prière. Mais il n'empêche que réciter des prières ne règle pas forcément le problème de la volonté. D'ailleurs, nous le savons tous très bien. Nous avons tous connu des personnes, ou même nous-mêmes, lorsque nous étions dans l'ignorance, lorsque nous étions sans cette vie de l'esprit, nous avons peut-être même récité des prières, on nous a même enseigné à réciter des prières. Combien de fois même avons-nous récité le Notre Père en étant à mille lieues de nous poser la question, mais Seigneur, quelle est ta volonté pour ma propre vie ? Donc l'apôtre Paul dans ce texte est très profond, puisqu'il va développer cette pensée, à savoir que si je fis certaines choses, si je les fais, je vais la discerner. Alors, si vous faites partie de ceux pour qui la volonté de Dieu est bonne, mais que Dieu soit béni, mais je voudrais quand même vous signaler que Dieu veut vous amener beaucoup plus loin avec lui, dans une vie de l'esprit. Parfois, nous ne nous rendons pas bien compte, mais nous sommes vraiment bloqués dans notre vie spirituelle, tout en étant dans la volonté de Dieu. C'est là un petit peu ce qui est difficile à discerner. Mais on peut être dans la volonté de Dieu et malgré tout vivre dans la crainte. Vous connaissez cette fameuse histoire dans Marc au chapitre 10, on va la lire, parce que peut-être que vous ne l'avez pas lu depuis longtemps, nous l'avons lu je crois dans la semaine avec les sœurs qui étaient là jeudi après-midi, mais c'est quand même une histoire qui nous prouve que l'on peut être dans la volonté de Dieu et en même temps avoir de la crainte, du trouble. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne discerne pas vraiment la pensée de Dieu. Notre frère M. Ollet, hier, qui a présenté donc un enseignement sur les anciens, les diacres, l'église locale, c'était très 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 intéressant, a commencé avec cette parole donc de l'évangile de Luc, où il nous a dit que Jésus leur a ouvert l'esprit à ses disciples, qui étaient dans cette froideur du doute, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'était des disciples. Et ils étaient malgré tout enfermés dans cette ignorance. Et là, nous voyons dans Marc au chapitre 10, verset 32, regardez, ils étaient dans le plan de Dieu, Jésus allait à Jérusalem et il fallait qu'il aille à Jérusalem pour aller au calvaire. Il était donc dans le centre le plus pointu de la volonté de Dieu. Jésus allait devant eux. Écoutez, si ça c'est pas la volonté de Dieu, vous m'expliquerez. Regardez, verset 32, ils étaient en chemin pour Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Moi, je me suis fait plusieurs films de cette histoire, et ça devait être quelque chose de merveilleux. Jésus marche devant eux, c'est quand même une chose qu'on aurait aimé voir. Vous n'auriez pas aimé le voir, ça? Répondez-moi. Vous n'auriez pas aimé le voir? C'est de l'être extraordinaire. Eh bien, on peut se dire là, ils sont au centre de la volonté de Dieu. Jésus va faire la chose la plus immense que l'histoire retiendra sur la terre, c'est-à-dire donner sa vie en sacrifice. Plusieurs, vous l'avez souligné ce matin dans vos louanges, c'est lui qui a tout créé, les fleurs, il soutient les univers, il a tout créé. Et il s'est fait fils de l'homme pour que vous donniez la vie éternelle. Et c'était en train de s'accomplir, on pourrait se dire, c'est vraiment chouette. Eh bien, regardez la suite. Et vous savez, ça a été écrit pour notre instruction. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Nous avons la preuve par ce texte que nous pouvons être au centre de la volonté de Dieu et suivre Jésus dans la crainte, être enfermé dans le trouble. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Alors pour nous, c'est vrai que le problème de la résurrection, il est réglé. Et nous savons par, excusez-moi, mais par A plus B, par tous les textes bibliques, nous savons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. C'est une affaire qui, entre guillemets, ça y est, classée. Mais, dites-moi, n'y aurait-il pas quand même des domaines où nous sommes encore aveuglés et que nous avons besoin de chercher Dieu, comme Salomon l'a fait? Salomon a eu ce réflexe intelligent de s'associer avec l'Assemblée pour chercher Dieu. Voilà toujours comment commence le règne de Dieu. La grâce de Dieu, on l'a lu, Salomon et l'Assemblée cherchèrent l'Éternel. Ne pensez pas un seul instant que le Seigneur aurait pu dire à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne, comme ça, d'une manière assez expéditive. Vous comprenez bien que si Dieu a pu formuler cette parole à Salomon, c'est parce qu'il avait cherché Dieu et que ce qu'il allait demander allait être en accord avec sa volonté. Parce que c'est un peu cavalier d'utiliser certains textes bibliques quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai », etc., etc. C'est tout le temps, bien sûr, sous-entendu, quand ce n'est pas directement écrit, que c'est en accord avec la volonté de Dieu. Ne nous permettons pas de bafouer l'Écriture en nous permettant de demander n'importe quoi au Seigneur, quoique Dieu peut aussi accomplir les désirs de ceux qui le craignent. Mais Salomon a cherché Dieu. Et nous sommes dans un monde qui ne veut pas chercher Dieu. On veut bien aller à l'église, on veut bien lire sa Bible, parce qu'on peut lire sa Bible et ne pas chercher Dieu. On peut prier, Seigneur, que ta volonté soit faite, rester même dans une certaine forme de grâce, tout en étant dans la volonté de Dieu. Et moi, je bénis Dieu, comme je viens de vous le dire, que Dieu fasse que 50 000 Toulousains ne connaissent que la bonne volonté de Dieu. Ça serait déjà pas mal. Mais il n'empêche que Dieu, qui connaît notre cœur, sait qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être révélées à nos cœurs, afin de discerner ce que Dieu a préparé, car c'est quelque chose de très important que nous discernions, non pas que la volonté de Dieu est bonne, mais qu'elle est agréable et parfaite. Les apôtres étaient dans la volonté de Dieu et ils ne comprenaient pas, ils n'acceptaient pas le fait même que Jésus doive aller à Jérusalem, qu'il souffre, c'est clair. Et pourtant, Jésus qui leur avait déjà dit ces choses, il nous est dit toujours dans Marc au chapitre 10, cette grâce du Seigneur, et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir, et 3 jours après, il le ressuscitera. En quelques paroles, le Seigneur enseigne aux apôtres ce qui doit se passer. De la même manière que lorsqu'aujourd'hui nous sommes sensibles au Saint-Esprit, la parole de Dieu nous révèle ce qui va arriver. Nous le savons par les enseignements de Jésus, par les enseignements de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul, que tout un tas de choses doivent arriver. Et Jésus nous dit exactement la même chose, que votre cœur ne se trouble pas. Nous n'avons pas à nous troubler pour la simple unique raison que nous ne sommes pas concernés par la colère de Dieu. Nous sommes concernés par la grâce et la paix du Seigneur. C'est la vérité. Et toutes ces choses qui concernent le monde impie, tous les textes qu'utilise l'apôtre Pierre en particulier, eh bien, sont adressées à ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Il se pourrait qu'il y ait ce matin quelqu'un qui soit là dans sa misère spirituelle. Et c'est vrai que l'obscurité des ténèbres vous est réservée. Si vous repoussez continuellement votre rencontre avec Dieu, si vous ne voulez pas vous convertir, si vous ne voulez pas vous repentir, c'est vrai que la colère, comme dit l'apôtre, finira par vous atteindre. Et que vous ne devez pas vous amuser avec le salut de votre âme. Mais ce matin, s'il est certain que plusieurs personnes dans ce lieu n'ont peut-être pas encore fait la paix avec Dieu, que vous êtes, comme on l'a dit, comme on l'a entendu par la prophétie, pas loin du royaume de Dieu, que vous avez besoin de vous repentir, faites-le. Faites-le, personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut vous sauver à votre place. C'est vous qui accepterez le salut de Jésus-Christ. Mais voilà, je voudrais ce matin m'adresser à l'Église et comprendre que Dieu est patient. Et là, vous avez vu, il les a pris avec lui. Et de nouveau, il a, dans sa patience, ce qu'on appelle sa longanimité, il a pris du temps pour leur expliquer ce qui devait se passer. Nous devrions offrir du temps à Dieu, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, pour que nous puissions justement être dans un état d'esprit qui permettra à Dieu de nous faire vraiment discerner. Parce que si je reste dans le trouble, si je reste dans la crainte, si je suis continuellement sujet à cette vie de légèreté, de superficialité, il est certain que ça ne peut pas être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons même pas des vainqueurs. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons plus que vainqueurs. Tout ça, bien sûr, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en lui et par lui. C'est une expression que j'aime beaucoup. La crainte est quelque chose de terrible, parce que la volonté de Dieu, c'est que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Là, c'est certain. Quelle est la volonté de Dieu? Que tous ses enfants soient immergés dans la vie de l'Esprit. Ça, je ne crois pas que ça s'orchestre d'une estrade. Moi, je crois que ça se recherche. La vie de l'Esprit, c'est quelque chose qui se recherche. C'est quelque chose de totalement individuel. C'est quelque chose qui peut se vivre dans l'Église. Que Dieu fasse que nous ayons des temps de visitation du Saint-Esprit. Et tout cela se fera parce que je vais discerner la volonté de Dieu. Mais au préalable, vous avez vu tout ce que l'apôtre Paul demande. C'est exactement pareil comme lorsque le Seigneur Jésus dit « Mais je frappe ». Et je me tiens à la porte, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. On voit bien qu'il y a dans l'Apocalypse chapitre 3 cette dimension de communion. Mais si vous regardez bien, il dit bien, et voici je. Mais avant, il y a tout un tas de conseils que le Seigneur donne par rapport à tous ceux qui sont dans la tiédeur. Et je dois reconnaître que je suis tiède si je ne fais pas de progrès, si je suis en train de vivre dans la crainte, de vivre dans le doute. Le Seigneur saura venir. Si nous sommes honnêtes, le Seigneur saura venir vers nous et nous parler et nous restaurer comme il a fait le jour de la résurrection. Vous vous rendez compte? Le jour de la résurrection, les hommes qui allaient bouleverser le monde, c'est pas rien, non? Les hommes qui allaient bouleverser le monde étaient enfermés dans la chambre haute et ils avaient peur des autres. La crainte des autres. Moi je crois que lorsque l'on discerne la volonté de Dieu, l'amour de Dieu bannit la crainte. La crainte de tout. La crainte de tout, vous pouvez lire dans la parole de Dieu, Dieu peut bannir la crainte de tout, que ce soit lié dans le cadre de la famille, que ce soit lié à la vie professionnelle, que ce soit lié à notre service. Dieu est un Dieu qui nous délivre de la crainte. Et les apôtres étaient là, et le Seigneur, dans sa souveraineté absolue, à juger bon d'entrer sans passer par la porte. Est-ce qu'il aurait pu taper le Seigneur? Tiens, mais c'est bizarre, on a lu dans l'Apocalypse qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, et là, il est entré sans frapper. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Est-ce que vous permettriez que Dieu entre dans votre vie sans qu'il ne frappe? Il n'y a que Mme Tournant qui a répondu. Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens, malgré encore les victoires à prendre, malgré les difficultés que vous reconnaissez, malgré les craintes qui vous envahissent, est-ce que vous êtes capable, parce que Dieu écoute votre cœur en ce moment, est-ce que vous êtes capable de lui répondre, Mesdames et Seigneurs, tu es libre d'entrer dans ma vie quand tu veux? Ça va changer énormément de choses et de priorités dans votre vie, parce que qui dit laisser Dieu entrer dans sa vie, dit forcément des changements. Des modifications, peut-être même de programmes.
Mais moi, je bénis Dieu pour le jour où, malgré la crainte, il est entré. Oh, il les a pas sermonnés comme nous, parfois, quand nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous sommes pas capables de le faire ou capables de mal faire. Il est entré et il leur a dit, la paix soit avec vous. Est-ce qu'il aurait pu les secouer un petit peu? Monsieur Olé, est-ce qu'il aurait pu les secouer? Ben oui, bien sûr. Il aurait pu leur dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette bande de peureux? C'est ça, le pasteur? Bien sûr que c'est ma façon, mais c'est pour vous mettre en contraste la façon dont un homme aurait pu faire et la pédagogie extraordinaire de Dieu et sa façon de nous approcher pour nous restaurer et nous montrer qu'au-delà de notre analyse du monde, au-delà de notre analyse politique et humaine et sociale, il y a au-dessus un Dieu qui veut régner. Et avant de pouvoir régner sur des inconvertis, qui va pouvoir convaincre de péché, parce que ça, c'est quand même l'affaire de Dieu de convaincre les gens de péché, et non pas la nôtre. Pour que Dieu puisse faire certaines choses dans le monde, il faut qu'il puisse d'abord les faire dans l'Église. Et ça passe incontournablement par cette attitude de cœur qui fera que je m'appliquerai à faire de sorte qu'un comportement va faire que je vais discerner la volonté de Dieu. Le Seigneur saura le faire. Moi, je peux essayer de le faire et je peux vous donner des conseils et je peux vous aider, les frères, les pasteurs, les anciens de l'Église, etc., des sœurs anciennes. Nous pouvons tous vous aider. Mais rien ne remplacera le temps que vous passerez dans la présence de Dieu, à laisser Dieu vous inspirer, à laisser l'Esprit de Dieu vous corriger certaines choses. Salomon a cherché Dieu, et lorsqu'il a cherché Dieu, la réponse qu'il a donnée à Dieu était une réponse qui ne pouvait que bénir l'histoire d'Israël. Est-ce que mes prières sont des prières qui font que, en vérité, je veux que ma vie amène la grâce de Dieu sur les autres? Tiens donc, quand nous prions, est-ce que vous êtes intéressé pour amener la grâce de Dieu sur les autres? Monsieur Olé, quand vous éditez le bulletin Serviteur de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour vous faire plaisir parce que vous ne savez pas quoi faire? Ou c'est pour amener la grâce de Dieu sur les milliers de prédicateurs à qui vous écrivez? C'est pour amener la grâce de Dieu sur les autres? Mais ça doit être une évidence. Je peux vous citer, il n'y a pas Monsieur Lafayette. Je ne suis plus personne. Mes frères, mes sœurs, si Dieu dit que la volonté de Dieu demande un travail de sanctification, on va y revenir, un travail sérieux, c'est quelque chose de personnel. Moi, je peux vous dire que le plus intéressé dans toute cette histoire, c'est le Seigneur Jésus lui-même, qui veut entrer dans nos vies, qui ne veut pas entrer que de temps à autre pour nous rassurer. Il le fera. C'est la volonté de Dieu qui est bonne, ça. Il le fera, il est Dieu. C'est notre Père, il ne nous obligera pas, il ne nous contraindra pas. Ce qui se passera, c'est vrai, c'est qu'au fur et à mesure que nous entrerons de plus en plus dans la volonté de Dieu, le Seigneur sera de plus en plus exigeant avec nous. Cette semaine, une jeune fille de l'église me disait, mais comment ça se fait que lorsque Moïse a répondu à l'appel, après avoir passé 40 années à Madian, dans le désert, comment cela se fait-il que lorsqu'il va obéir à Dieu et il va partir en Égypte, il nous est dit que dans la nuit, Dieu voulut faire mourir Moïse. C'était une blague ou c'était la vérité? Dieu a voulu faire mourir Moïse. Ça ne vous a pas choqué la première fois que vous avez lu ce texte? Moi, la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de trucs que tu crois du mal à comprendre. Et c'est vrai, mais j'ai compris. Plus vous entrez dans la volonté de Dieu, plus Dieu est exigeant avec vous. Et des choses qu'on avait négligées dans le passé, c'est-à-dire la circoncision de son fils. Vous savez que la circoncision, c'est le signe de l'alliance. Et parce que Séphora et son mari, Moïse, avaient certains problèmes de relation, il avait négligé le problème de la circoncision de son fils. Entre Séphora et Moïse, ce n'était pas toujours beau. Mais voyez là, justement, quand Dieu a voulu faire mourir Moïse, Séphora a vite compris qu'il y avait eu un problème dans le foyer. Quand vous sortez de la volonté de Dieu qui est bonne, vous allez entrer dans un circuit beaucoup plus pointu, mais beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est des choses que l'on veut ou que l'on ne veut pas, consciemment ou inconsciemment. C'est vrai que l'on sait quelque part que ça va exiger un renoncement, car l'apôtre Paul est formel, Jésus est formel. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et vous ne savez pas. J'ai pensé ce matin en priant à la fois où nous étions pasteurs, et à Groyer, je vois qu'il y a une sœur de Groyer, Mme Mallet, que Dieu vous bénisse. Et Et cette, je me rappelle, ça faisait 6 ans qu'on était dans cette ville, et ça faisait quelques nuits que je ne dormais pas. Et je sentais que Dieu me travaillait, qu'il fallait qu'on parte. Et ça, c'est quelque chose, vous savez, les changements, ce n'est pas facile. Et une nuit, je ne dormais pas, c'était 3 heures du matin, je suppliais Dieu dans mon cœur, j'hurlais. Ma femme n'entendait rien, mais je peux vous dire qu'on peut crier dans son cœur, croyez-moi. Et là, mon fils, Jonathan, a parlé en langue. Il dormait, il a parlé en langue. Et quand il a terminé de parler en langue, parce que j'ai dit au Seigneur, mais quand est-ce que tu me parleras? Mais qu'est-ce que je dois faire? Je t'en supplie, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Vous savez, quand on est pasteur, c'est quand même une responsabilité, le changement pastoral, etc. Et Jonathan, il a parlé en langue, il a terminé, et il a dit, dans 15 jours. Il dormait, il se rappelle de rien. Comme d'habitude. Et 15 jours après, je reçois un courrier qui m'invitait à aller faire un camp d'évangélisation en Polynésie. 15 jours après, comme par hasard. C'est où la Polynésie? Et je peux vous dire que là, j'ai cherché Dieu. Parce que c'est une chose de partir 3 semaines dans un hôtel de luxe. Et ce n'est une autre de travailler dans les ténèbres. Croyez-moi. Monsieur Olé doit me comprendre, je peux vous le dire. Et bien là, j'ai soupiré après Dieu. Et je crois qu'il y a des moments dans la vie où il faut vraiment s'appliquer. Salomon a cherché Dieu. Il a de suite reçu cette sagesse pour bénir. Vous connaissez l'histoire de ces deux prostituées qui vivaient dans la même pièce, dans la même maison, qui ont accouché, pour ainsi dire, en même temps. Et une nuit, un de ses enfants a été étouffé par sa maman qui était couchée contre elle. Et ça a fait une histoire pas possible. Les deux se réclamaient de l'enfant. Cette histoire est venue aux oreilles de Salomon. Dieu a voulu que cette histoire soit dans le canon des Écritures pour nous enseigner que quand on demande la sagesse aussi, bien Dieu finit par nous l'accorder. Et que cet homme de Dieu n'a pas négligé deux femmes qui étaient prostituées, que Dieu nous enseigne de ne pas négliger ceux qui à nos yeux sont peut-être d'un autre rang. Mes frères, Dieu aime les prostituées et Dieu aime les ministres. Et nous devons ni mépriser les uns ni juger les autres. Et nous devons avoir de la compassion parce que l'exhortation de l'apôtre Paul pour discerner la volonté de Dieu commence par « Je vous exhorte par les compassions de Dieu ». Cette histoire du réveil d'une ville, cette histoire d'une assemblée qui est remplie du Saint-Esprit, ne marchera pas à coup de démarches militaires, ça marchera à coup de compassion. L'histoire avec Dieu est une histoire de compassion. Je vous exhorte qu'à parler compassion de Dieu. C'est toujours l'amour de Dieu. Jésus, lui, le seul qui aurait pu lapider la femme adultère, ne l'a pas fait. Le seul qui était capable d'être sévère, il l'a été, quelquefois même comme il fallait. Mais il savait le faire. Et Salomon, dans cette histoire, nous a montré que, vous savez, c'est deux prostituées, c'est mon fils, c'est l'autre, mais non, c'est le mien, mais non, c'est le mien. Elles voulaient toutes les deux l'avoir. C'est une histoire qui est terrible, ça. Et puis vous connaissez la réaction de Salomon qui dit « Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. » Voilà, on va couper l'enfant en deux, on va donner la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y en a une qui a dit oui, mais la vraie mère, elle divisera jamais le corps. Le vrai chrétien, par la grâce de Dieu, il divisera jamais. C'est quelque chose de terrible, mais la sagesse, elle construira toujours l'œuvre de Dieu. L'autre prostituée qui savait que cet enfant n'était pas le sien, mais qui le voulait pour une raison qui nous échappe, a dit « coupe-le ». Et la vraie mère a dit non, donne-le à l'autre. Vous savez, mes frères et sœurs, discerner la volonté de Dieu, c'est parfois perdre. Il vaut mieux perdre. Moi, c'est qu'un principe que j'ai. Mais ça, c'est clair, c'est un principe que j'ai. C'est peut-être pas toujours intelligent, mais c'est un principe que j'ai choisi d'avoir. Je préfère perdre que de diviser. Et nous voyons bien, dans ce texte, que Dieu veut nous amener plus loin. Une vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La vie de l'esprit, c'est Dieu qui prend en main l'histoire de l'Église. Ce n'est pas des hommes avec des programmes, mais c'est Dieu lui-même, avec sa compassion, qui va nous diriger, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à écrire, à témoigner, à téléphoner dans un endroit, je ne sais pas comment. Mais moi, je crois que lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, eh bien, la vie de l'esprit coule en lui, les fleuves d'eau vive coulent, et l'œuvre de Dieu se fait, je me permets de le dire, sans effort. Bien sûr qu'on fait des efforts pour entretenir notre communion avec Dieu. Après tout, ce sont quand même les violents qui s'emparent du royaume. Mais après, cela découle d'une communion que l'on a avec son Seigneur. Et c'est extrêmement sérieux. Je m'adresse aux chrétiens de nom. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église qui ont jugé d'en rester là. C'est votre choix. Moi, je n'ai pas à vous infliger quoi que ce soit. Je peux vous encourager et je dois le faire puisque la prédication de ce matin y correspond. Mais mes frères, est-ce que vous voulez entrer dans le ciel et avoir l'entrée ouverte? Et, mais que Dieu vous reproche, voilà, tu as fait ma volonté qui était bonne. Mais tout le reste, tu es passé à côté. Vous ne croyez pas que ça vaut le faire, la peine de faire des efforts pour aller plus loin dans une dimension qui est agréable à Dieu? Quand on fait ce qui est agréable à Dieu, on a beaucoup de plaisir. On peut faire les choses parce qu'il faut les faire. Voilà, bon, il faut que je prie, je prie. Il faut que je lise ma Bible, je lis ma Bible. Tout ça sérieusement. Il faut que j'aille à l'église, je vais à l'église. Fais la volonté de Dieu qui est bonne. Mais on peut faire ce qui est agréable. Et ça correspond d'ailleurs à une promesse, on peut la lire. Il y a beaucoup de textes, j'aurai l'occasion d'y revenir, ça fait des mois que je vous le dis, que je vous parlerai un jour sur ce qui est agréable à Dieu. Mais dans l'épître de Jean, quelque chose qui détermine en plus la prière. 1 Jean chapitre 3, verset 22. C'est une chose de faire la volonté de Dieu qui est bonne. Mais Dieu veut nous amener plus loin. En tous les cas, il y a plusieurs personnes dans ce lieu qui veulent aller plus loin avec Dieu. Il y en a plusieurs qui veulent aller plus loin? Eh bien, que Dieu vous bénisse. Regardez bien, 1 Jean chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, donc c'est lié à l'exaucement, nous le recevons de lui. Alors, là c'est expliqué. Parce que, 1, nous gardons ses commandements, et deuxièmement, nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est une chose de faire ce que Dieu nous demande, ça n'est une autre, de faire en plus tout un tas de choses, parce qu'on a envie de le faire. Cette semaine, ma fille était entrée dans mon bureau et m'a proposé un beau marbré au chocolat, avec la crème anglaise et tout. J'ai dit, ma fille, merci. C'est maman qui t'a demandé de le faire? Non, c'est moi, je l'ai fait pour vous faire plaisir. Et je dis, tiens, si on faisait tous pareil avec le Seigneur. On fait ce que Dieu nous demande parce qu'il nous le demande, et ça fait partie du plan de Dieu qui est bon, mais faire tout un tas de choses qui lui sont agréables. Et ça ne se discerne que dans une communion personnelle avec Dieu. Je peux vous donner quelques idées, mais elles ne correspondront pas forcément à ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais si Dieu le dit, frère, sœur, si Dieu dit « afin de discerner », c'est que la volonté de Dieu implique un temps où je vais... On peut y revenir dans cet épître aux Romains, pour bien comprendre quand même. Romains chapitre 12, on l'a lu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est sérieux cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour discerner la volonté de Dieu? Et ça s'adresse à tous, à vous et à moi. À vous qui avez fait déjà beaucoup de progrès avec Dieu, vous n'êtes pas dispensés. Et moi non plus, je ne suis pas dispensé. Regardez bien, la fin du verset 2, afin de discerner la volonté de Dieu. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous est demandé? Il nous est demandé, au verset 2, de ne pas nous conformer au siècle présent. S'il y a quelque chose qui est profondément dangereux, c'est la mondanité. Le siècle présent, les méthodes du monde, d'essayer pour plaire aux gens, de faire comme eux, d'utiliser le même vocabulaire qu'eux, etc., etc. Quoique, il faut avoir un vocabulaire intelligent que les gens comprennent. Mais je veux dire, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Ça n'a rien à voir avec la mode, ça n'a rien à voir avec certaines choses humaines. C'est un état d'esprit. On n'a pas à chercher à avoir la mentalité du monde. La mentalité du monde, c'est la mentalité du monde. Nous aimons les gens qui sont dans le monde, mais nous voulons avoir la mentalité du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bon, ça c'est une chose qui est assez simple à comprendre, mais l'exhortation, je répète, c'est pas un ordre, quoique le chrétien qui sert spirituel acceptera qu'un commandement, c'est quand même un ordre du Seigneur. Quand Dieu dit « soyez remplis du Saint-Esprit », c'est pas une suggestion, c'est un commandement. Est-ce que, en ce moment, je m'applique à faire de sorte que mon vase, que je suis, n'ait pas de brèche, n'ait pas de fissure, mais que Dieu puisse vraiment poser ses mains pour faire de moi un vase d'honneur? Est-ce que vraiment je paye le prix? pour être un vase d'honneur, donc, pour être capable d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que pour être rempli du Saint-Esprit, il y a quand même des lois qui sont très précises. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, je reviens sur cette expression, les compassions de Dieu, parce que Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Et c'est vrai que des fois, il use de sévérité, on l'a lu l'autre jour, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. C'est un équilibre parfait, comme un père qui est capable d'exprimer beaucoup de tendresse envers son enfant et qui en même temps, parce que la situation le réclame, d'être extrêmement sévère. C'est tout à fait normal que Dieu soit tendre et qu'à des moments, Dieu soit sévère. On pourrait dire, tiens, il a voulu faire mourir Moïse. Eh bien oui, le problème c'est que on meurt spirituellement, en tous les cas on s'éteint spirituellement lorsque on ne fait pas ce qu'il faut pour conserver l'alliance. Si nous voulons entrer dans le pays de la promesse, si nous voulons voir des gens être délivrés, si Dieu a demandé à Moïse certaines choses et s'il a failli y laisser la peau, parce qu'il avait négligé la notion de l'alliance, il en est de même pour nous. Nous n'entrerons pas dans les promesses de Dieu en négligeant les signes de l'alliance. Ça, il faut bien le comprendre. Tout le reste sera inutile. Par les compassions de Dieu à offrir vos corps. S'il faut offrir nos corps, vous comprenez bien que ça concerne également notre âme et notre esprit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il faut que ça soit vivant. Dieu est le Dieu de la vie. Il donne la vie en abondance. Il ne faut pas faire les choses pour les faire. Il ne faut pas venir à l'église parce qu'il faut venir à l'église. C'est la vie. Je viens à l'église, béni soit le nom du Seigneur. Je repars de l'église, béni soit le nom du Seigneur. Ne venez pas comme cette femme de pasteur, j'avais lu ça, c'est une petite histoire marrante, c'est pas mon style l'histoire marrante, j'aime pas. Mais qui disait à son mari, arrête de sourire, on est arrivé à la maison. J'ai bien aimé ça, vous voyez. Le gars qui laisse le sourire là. Je suis à l'église. Mes frères, je crois que quand on est avec Dieu, il y a la vie de l'esprit. Vous le croyez? Et ça se vérifie. Ça se vérifie au fruit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Quand Jésus est là, c'est clair. Même si on a été enfermé dans la crainte, même si on n'a pas compris la volonté de Dieu, quand Jésus est là, il nous tranquillise, il nous donne la paix, on le sent. Si la paix de Dieu n'est pas dans mon cœur, il est absolument urgent que je m'isole et que je lui demande de me redonner sa paix. Ça vous est déjà arrivé de la perdre, la paix? Moi, oui. Eh bien, Dieu vous la redonnera. C'est le prince de la paix, il vous aime et il vous la redonnera parce que c'est sa façon d'intervenir. On l'a vu dans deux textes, il donne la paix. Mais cette paix que nous avons ne doit pas nous permettre juste de devenir des égoïstes spirituellement, des gens contents de soi et de voir que leur vie tournait autour d'eux-mêmes, mais au contraire, de pouvoir discerner cette volonté, offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain. La sainteté, frères et sœurs. Je le disais hier soir au jeune Albi, la vérité, elle produit la sainteté. C'est écrit? Si la prédication de la parole de Dieu, en tous les cas, ma lecture personnelle, puisque Jésus est la vérité, ne produit pas la sanctification dans ma vie, je ne dis pas qu'elle va être parfaite du jour au lendemain, quoique nous sommes déjà sanctifiés par le Seigneur Jésus. En tant que chrétien, notre position en Christ, nous sommes des sanctifiés. Mais je fais la différence entre notre position en Christ et puis notre comportement, qui lui a besoin aussi d'être sanctifié. Et si vous êtes dans les Romains, on peut juste lire un petit peu plus loin, un texte qu'on avait utilisé il y a quelques mois, je crois, c'est quand même important. Parce que la sanctification est la conséquence de notre communion avec Dieu. Si ma lecture, mon culte personnel, ma vie d'église ne m'amène pas à une vie de sanctification, c'est qu'il y a un problème, ça c'est certain. Éphésiens 4, verset 24, c'est tout un enseignement. Éphésiens 4, verset 24. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, c'est formel, la vérité, une des conséquences de la vérité, c'est de nous affranchir, de nous rendre réellement libres. Mais justement, la liberté, c'est la sainteté. La sainteté, il ne faut pas oublier que c'est la véritable piété. Quand la Bible dit que les gens, ils auront l'apparence de la piété. Vous savez, dans la fin des temps, les chrétiens auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Vous n'êtes jamais posé la question? Moi, oui. Mais qu'est-ce qui fait la force de la piété? Il y a deux vertus qui font la force de la piété, c'est la repentance et la sanctification. Parce que la repentance, c'est toujours cet état de cœur qui nous permet de nous remettre vraiment en question, de dire oui, si j'ai de la crainte, c'est que je ne sais pas me redresser spirituellement. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, gardez-vous d'être troublés, mais réjouissez-vous, redressez-vous, élevez votre tête parce que votre délivrance approche. Ça, c'est exactement le synonyme de ce qui s'est passé avec les apôtres quand ils ne comprenaient pas la résurrection. Nous devons comprendre que Jésus revient nous chercher et que s'il tarde, c'est parce que il tarde parce que il veut sauver plein d'hommes et de femmes. Alors, c'est peut-être parfois, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas juger les prières, mais quand même, c'est bien joli de dire Seigneur, reviens me chercher, j'en ai marre, reviens me chercher. Reviens me chercher. Remarquez, si Jésus était revenu me chercher, chaque fois que je dis Seigneur, j'en ai marre, reprends-moi, je serais mort au moins 200 fois. Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu sait exactement le moment, la seconde où il va revenir chercher l'Église. Et en attendant, redressons-nous, ne ressemblons pas à cette fille d'Abraham courbée depuis 18 ans qui était là, que Jésus a vu. Combien de fois sommes-nous courbés? Nous sommes courbés. Vous avez vu cette histoire dans l'Évangile? Cette femme courbée depuis 18 ans. Elle était là dans la synagogue. Le Seigneur lui a pas fait de reproche. Elle était là. Elle était courbée. Eh bien, on va pas lui faire le reproche d'être courbée. On va la féliciter malgré sa position spirituelle et physique, surtout spirituelle, eh bien, d'être là. Que Dieu soit béni pour votre vie, même si vous êtes courbé, même si vous ne voyez que la pointe de vos chaussures, vous pouvez ce matin dire, laissez le Seigneur vous redresser. Et ne pas vivre dans la crainte, mais vivre dans la paix. C'est un principe, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la paix. Et cette paix va nous amener à être disposés et disponibles et intelligents. Et dire, Seigneur, mais c'est vrai, mon corps, est-ce que vraiment ma vie t'appartient? Est-ce que tu peux faire de ma vie ce que tu veux? Est-ce que vraiment? Est-ce que tu peux m'amener où tu veux? Est-ce que vraiment je me sanctifie? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça c'est formel, écoutez, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans la Bible, ça vient de la bouche de Dieu lui-même. Est-ce que nous voulons voir le Seigneur? C'est quoi un réveil? Ce sont des chrétiens qui voient la gloire de Dieu, ce sont des perdus qui découvrent l'Évangile, ils sont convaincus de péché. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de les tarabuter pendant 3 heures, quand l'Esprit de Dieu agit, les pécheurs sont convaincus de péché. À nous donc de vivre dans l'Esprit, que vous ayez le fardeau des perdus, mais c'est excellent. Et qu'ils reviennent un quart d'heure après que vous l'avez déposé, eh bien c'est normal. Eh bien redéposez-le, ça entretient cette vie d'intercession et de supplication. Mes frères et sœurs, la conversion des pécheurs, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Notre problème à nous, c'est que la présence de Dieu soit dans l'Église. Que la présence de Dieu soit dans nos cœurs. Et pour discerner la volonté de Dieu, je le répète, ça ne va pas être avec trois ou quatre prières rapides que je vais expédier comme ça, en me disant, si je prie parce que c'est la volonté de Dieu, je suis dans la volonté de Dieu. Et moi, je peux vous dire que la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus profond que 2 ou 3 prières récitées. Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui, protège-moi. Seigneur, béni soit Dieu pour sa protection. Béni soit Dieu pour le repas que vous allez prendre tout à l'heure. Quand vous savez qu'il y a des millions d'enfants qui n'auront pas de repas aujourd'hui. Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Mais moi je peux vous dire qu'il veut nous donner beaucoup plus encore. Il veut nous donner une église où l'Esprit de Dieu se manifestera, où dans les mois qui vont suivre, nous verrons nos enfants se frapper la poitrine, ceux qui ne l'ont pas encore fait, et même nous peut-être, nous aurons besoin de le refaire parfois, où nous verrons des pécheurs qui étaient invétérés, qui le matin se levaient avec la hargne et la colère, le soir s'endormir parce qu'ils auront fait la paix, parce que Dieu l'aura fait. Le réveil, c'est Dieu qui agit. Et Dieu agit lorsqu'il peut amener sa présence dans l'Église. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Moi, je ne peux pas vous exhorter ce matin en étant sévère, je ne peux vous exhorter qu'avec compassion. Et vous dire, offrons nos vies à Dieu. Que chacun de nous cherche sa face. Et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Dieu a donné à Salomon ce qu'il fallait. Dieu a dit, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Peut-être que vous manquez de zèle, peut-être que vous manquez de... Vous êtes tiède, et Dieu le sait si vous êtes tiède. Mais vous aimez Dieu parce que vous êtes là quand même ce matin. Mais vous, quand même, vous avez l'honnêteté de dire, c'est vrai, c'est ma vie de prière avec ma femme, c'est pas le beau fixe. Ma vie de prière avec mes enfants, c'est peut-être pas ça. Ma communion avec Dieu, c'est vrai que vous le savez. Eh bien, laissez le Seigneur vous redresser. Laissez le Seigneur, par sa compassion, vous reprendre avec vous. Vous prendre seul avec vous. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon de se sanctifier et d'offrir sa vie, ce qui sera un culte agréable. Mes frères et sœurs, il y a ce qui est bon. Et je pense que la majorité d'entre nous, nous faisons vraiment ce qui est bon. Mais Dieu, qui veut sauver cette ville, Dieu qui veut faire quelque chose qui peut même nous étonner, qui veut nous étonner. Vous croyez que Dieu veut nous étonner? Moi, je crois. Mais j'en suis convaincu, moi. Sinon, ce n'est pas le Dieu que je conçois dans ma tête. Moi, le Dieu que je crois connaître, c'est un Dieu qui est puissant et qui n'attend qu'une chose, que des hommes et des femmes cèdent à ses injonctions, à ses ordres bénis, de pouvoir trouver un canal et des canaux de bénédiction capables d'amener le feu de Dieu sur une ville. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. Paul, quand il prie aux Philippiens, il le dit, il dit, l'amour augmente de plus en plus pour le discernement des choses les meilleures. Le discernement. Un chrétien, il discerne. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bon, mais je sais pas ce qui est bon que je veux. Seigneur, je veux faire ce qui est agréable. Je te rends grâce à midi, mais je vais te rendre grâce toute la journée, Seigneur. Pour toutes choses. Et nous pourrions multiplier les exemples. Mes frères et sœurs, est-ce que nous croyons que Dieu peut et veut remplir l'Église de la fin des temps du Saint-Esprit? Ou est-ce que vous croyez que parce que l'apostasie se présente de plus en plus, que l'Église est de plus en plus dans l'apparence de la piété, est-ce que vous croyez que dans tous les endroits ça se passera comme ça? Moi j'ai lu un texte où il est dit que Jésus prendra une Église belle, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Il va prendre une Église comme ça. Est-ce que vous le croyez? Eh bien ce sont des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui s'appliquent. Ils s'appliquent. Tous les textes sur le discernement, c'est tout le temps s'appliquer. Quand Paul en parle aux Éphésiens, où il dit discerner la volonté de Dieu, dans quel contexte c'est dit? Réveille-toi, toi qui dors. Oui, juste après, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est tout le temps un enseignement qui nous ramène justement à comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis et que quand on est rempli, des fleuves coulent de notre sein. Est-ce que ça vous intéresse à ce que des fleuves d'eau vive coulent de votre vie? Quand ça coule tout seul. Ça coule tout seul. C'est le résultat de ce que Dieu a déversé à notre cœur. Et il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Moi, je crois que Dieu aime cette ville de Toulouse. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Est-ce que vous voulez bien, vraiment, répondre au Seigneur? Là, dans le recueillement, dans le silence de vos cœurs. Dieu vous aime, vous savez, mes frères et sœurs. Moi, honnêtement, le jour de la résurrection, j'aurais fait des reproches aux apôtres. Mais voilà, moi, je suis vraiment qu'un pauvre type. Mais Dieu, lui, connaît vos cœurs. Dieu, il connaît votre cœur. Et il sait que vous avez besoin de paix. Oh, ils sont vite passés de la crainte à la joie. Dès que vous reverrez Jésus, dès que vous redresserez, viendra. Oh, pas l'exubérance, forcément. Mais cette paix intérieure. Qui fera que, comme David, comme on l'a chanté ce matin, de David qui désirait rester dans sa présence. De Marie, qui restait assise aux pieds du Seigneur. Il y a des injonctions, frères et sœurs. Dieu ne vous forcera pas, Dieu ne me forcera pas. Et reprenez-moi si un jour, je venais à faire plus que ce que je dois faire. Et si le Seigneur frappe à la porte, si le Seigneur nous exhorte à discerner la volonté de Dieu, si le Seigneur nous pousse, ce matin par le Saint-Esprit, à passer de ce qui est bon à ce qui est agréable, pourquoi résisterais-je? Alors que Dieu m'appelle à aller plus haut, comme Moïse. Mais voilà, Moïse, il y avait ça dans ta vie. Le Seigneur pourrait te dire, ce matin, dans le secret de ton cœur, mon enfant, il y a ce péché que tu n'as pas réglé. Tu peux vivre, oui, comme ça, tu peux continuer à rester dans ma présence, mais je veux t'amener plus loin. Et il y a ce domaine-là, dans ton couple, regarde, auprès de tes enfants, là, dans ta vie professionnelle, regarde ce que tu fais. Regarde ce que je t'avais demandé il y a 12 ans peut-être, il y a 3 ans, et tu ne l'as pas encore fait. Le Seigneur vous aime, vous savez, mes frères. Ce sont les compassions de Dieu qui doivent d'abord dominer dans l'Église. Dieu a besoin de vous. Peut-être qu'il y a dans l'Église un pasteur, un futur pasteur. Ne vous contentez pas de la volonté de Dieu qui est bonne. Louez-le toute votre vie, parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais si vous saviez ce que Dieu a pour vous, y a-t-il quelqu'un qui veut, dans les jours qui vont suivre, Dieu, sa vie, peut-être mettre de côté certaines choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui vous empêchent d'avoir ce cieux devant Dieu?
peut-être 7 heures que vous utilisez pour faire un tennis. C'est bien que vous fassiez du tennis. Ou 7 heures que vous utilisez pour faire telle et telle activité. Mais dites-moi, qu'attend votre Père Céleste? Seigneur, de la même manière que tu es intervenu sur les apôtres, sur les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils te suivaient dans la crainte et dans le trouble, comment tu as su t'arrêter sur le chemin? Comment tu as su pénétrer dans cette chambre haute? Mon Dieu, que tu es bon! Comment tu as su rejoindre ces disciples fatigués? Tu leur as ouvert l'esprit. Tu leur as donné la paix, tu leur as donné la joie. Seigneur, vraiment, tu es un Dieu infiniment miséricordieux. Et je crois que tu veux le faire pour chacun. Seigneur, tu sais que moi, le premier, je veux vraiment discerner ta volonté, mon ministère, afin de faire que ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous sommes sous ton regard ce matin. Et nous te prions de nous travailler encore, de nous donner cette intelligence d'être là sur le tour de ta parole, comme un vase peut être touché par le potier parce qu'il reste le temps qu'il faut sur le tour. Donne-nous de rester sur le tour de ta parole le temps qu'il faut. Attends de ce que tes mains seront nous formées, nous modelées, comme tu l'attends, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, c'est vrai. Donne-nous ta sagesse, donne-nous du discernement des choses les meilleures. Tu nous vois dans les jours qu'on va vivre, Seigneur, c'est vrai que nous sommes à l'abri de la colère. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir enseigné ces choses, que nous sommes épargnés de la colère et que nous ne nous vivrons que de ta grâce éternellement. Tu vois mes frères et mes sœurs, tu vois les jeunes, aide-les, Seigneur, à se tourner vers toi vraiment. Et si c'est vrai que c'est elles-mêmes qui doivent se repentir, tu peux les aider, Seigneur, à faire cet acte-là. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni.